Vous écoutez RTL.
Et à 7h50, c'est l'heure de l'invité de RTL. Et aujourd'hui, Jérôme Florin, vous recevez Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense.
Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Après 8 mois de bras de fer diplomatique avec la Russie, la France garde donc ses deux Mistral, ses deux porte-hélicoptères qui devaient être livrés à Moscou. Le contrat avait été signé par Nicolas Sarkozy en 2011 pour 1,2 milliard d'euros. L'an dernier, François Hollande a décidé de mettre fin à ce contrat en raison du comportement des Russes en Ukraine. Un accord a été trouvé hier avec Vladimir Poutine. Paris garde les navires, mais les rembourse. Quel est le montant total du chèque, Jean-Yves Le Drian?
D'abord, vous l'avez rappelé, cet engagement avait été pris en 2011. Je n'ai pas à juger les raisons qui avaient amené cette vente. En tout cas, nous étions dans une autre époque. Depuis, il y a eu la crise de Crimée, il y a eu la crise ukrainienne, où la diplomatie française s'est fortement déployée dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie. Mais la crise est toujours là. Elle n'est pas close. Et donc, il a semblé au président de la République qu'il n'était pas souhaitable d'ajouter du risque à la menace et de livrer ces deux bateaux. Il y a eu depuis des discussions qui se sont conclues hier entre le président Poutine et le président Hollande et qui font cesser le contentieux. Il n'y a donc plus de discussion à avoir et la France remboursera à la Russie l'ensemble des frais engagés par la Russie pour l'acquisition de ces bateaux.
Ce qui fait
le prix de initial des deux bateaux était d'environ 1,2 milliard. Le prix de l'accord, qui est le meilleur accord possible, sera inférieur puisque la Russie sera remboursée à l'euro l'euro des engagements financiers qu'elle a pu mobiliser et le montant exact sera communiqué au Parlement parce qu'il y aura une loi de ratification et le Parlement va être saisi très rapidement et du montant et du dispositif.
Donc moins d'1,2 milliard?
Oui, puisque les bateaux n'étaient pas achevés et qu'il y a eu une suspension du contrat.
Et il n'y aura pas de pénalité à payer en plus?
Parce qu'il n'y a plus de contentieux.
Les Russes ont quand même formé 400 marins pour ces navires. Il ne faudra pas payer ça?
Tout cela est clair entre le président Hollande et le président Poutine et donc les bateaux sont désormais en pleine propriété de la France.
On entendait dans le journal de 7h tout à l'heure sur RTL ce reportage à Saint-Nazaire, là où ont été construits les Mistral. Les ouvriers déplorent un gâchis industriel. Vous les comprenez?
Oui et non. Oui, parce qu'ils ont eu le sentiment de construire pour un partenaire qui s'appelle la Russie. Non, parce qu'il n'y aura, par cet accord qui est le meilleur accord possible, aucune conséquence pour l'emploi. Et puis il y aura, j'en suis convaincu, d'autres acquéreurs.
Alors ben justement, qu'est-ce qu'on va en faire de ces deux navires maintenant qu'on les a sur les bras?
Eh bien, dès à présent, un certain nombre de pays ont fait connaître leur intérêt pour ces deux bateaux. Ils sont nombreux et je n'ai pas l'intention,
pas
en ce qui me concerne, non généralement.
On parle de l'Inde, du Canada.
Oui, on parle de beaucoup, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que ce sont deux très beaux bateaux. Oui. La marine française en a trois. Ce sont des bateaux à usage divers qui peuvent à la fois être des bateaux de projection, mais aussi des bateaux de commandement, voire des bateaux hôpitaux.
Et il faut les vendre, ces bateaux. On n'a pas les moyens de les garder. Ça coûte cher, l'entretien.
Oui, effectivement, il faudra les remplacer.
Voilà, on parle de 1 million à 2 millions d'euros par mois juste pour les entretenir, ces navires.
Oui, il est souhaitable de le faire le plus rapidement possible. Mais on ne pouvait pas le faire tant que le contentieux n'était pas réglé avec la Russie. C'est le cas. Et c'est le cas de manière amiable.
Est-ce que ça ne risque pas?
Et donc, il n'y a pas de suite à avoir.
Est-ce que ça ne risque pas, Jean-Yves Le Drian, d'avoir des conséquences sur des ventes futures, des pays qui se diraient, si ma politique étrangère n'est pas adaptée aux souhaits des Français, on ne sera pas livré, ça peut refroidir des ardeurs commerciales quand même.
Oui, j'ai entendu ça depuis déjà plusieurs mois.
Oui.
Puisque vous savez, la décision du président Hollande de renoncer à la livraison date du mois de septembre de l'année dernière. Depuis cette date, je crois qu'en matière d'exportation d'armement, il y a eu plus de 15 milliards d'euros de ventes. Vous voyez donc que la signature de la France est déjà parfaitement respectée, même dans ce cas-là.
Alors justement, on n'a pas livré aux Russes, mais on a livré des rafales à l'Égypte, qui n'est pas un grand modèle de démocratie non plus, puisque le régime du président Al-Sissi, qui s'est imposé, on le rappelle, par un coup d'État, a déjà fait 1400 morts et des milliers de prisonniers. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids de mesure? Est-ce qu'on fait les gros yeux à la Russie, mais on les ferme sur l'Égypte?
Nous sommes avec l'Égypte dans un combat vigoureux, long, permanent, contre le terrorisme. Le terrorisme dans notre pays, le terrorisme aux portes de la France, le terrorisme en Égypte même. Je pense que vous ne souhaitez pas, dans vos propos, je ne vais pas les interpréter comme étant la volonté de votre part du retour des frères musulmans en Égypte. Non, puisque ce sont les Égyptiens qui se sont révoltés contre les frères musulmans.
On a besoin d'eux, donc on fait du commerce
aussi,
avec eux.
Le terrorisme aussi en Égypte, le terrorisme aussi aux portes de l'Égypte. Terrorisme dans le Sinaï, le terrorisme en Libye. Et donc nous sommes partenaires de l'Égypte dans ce combat indispensable qui nécessite une mobilisation de tous. Et c'est donc un partenariat de long terme que nous avons signé avec l'Égypte, avec un président qui, je vous le rappelle, a été élu à la suite d'une révision constitutionnelle et avec un pays qui va avoir à l'automne des élections législatives. Mais il faut combattre le terrorisme. Et l'Égypte, aujourd'hui, en fait sa priorité numéro un, la France aussi.
Alors justement, l'Égypte, vous y rendez après ce passage par RTL avec le président de la République. Vous êtes invité à l'inauguration du nouveau canal de Suez, ou plutôt de son agrandissement. C'est un événement national là-bas. On dit que ça va relancer le commerce et l'économie locale. Le canal de Suez est un don de l'Égypte au monde, dit le président Al-Sissi. Vous lui dites merci?
Parce que je pense que le président Sissi a bien fait d'engager de manière très rapide et très spectaculaire les travaux de doublement du canal. Parce que c'est pour l'Égypte une occasion d'avoir des ressources supplémentaires. Et le fait qu'il ait décidé à Ismaïlia d'établir autour du canal une zone d'activité permettant le développement économique et industriel de son pays, c'est un atout supplémentaire. Donc oui, l'Égypte fait un acte très fort en permettant une accélération des transits à travers le canal, le doublement, un temps d'attente qui sera beaucoup moins important. Et c'est aussi une Égypte qui revient dans le théâtre régional et qui réaffirme sa puissance. Oui, d'une certaine manière, l'Égypte est de retour.
Et ce canal de Suez est aussi une cible pour l'État islamique. Les djihadistes
bien
sont
sûr.
Implantés dans
Je
la
vous
région.
Parlais tout à l'heure du terrorisme. Oui, bien sûr. Et d'où la nécessité pour ce pays de se prémunir et d'avoir une capacité de défense suffisamment significative pour éviter le déploiement du terrorisme, là aussi.
Vous évoquerez le sujet tout à l'heure, justement. François Hollande évoquera le sujet avec son homologue. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre contre Daesh aujourd'hui? On a déployé déjà tellement de moyens, on a l'impression que la pieuvre, en quelque sorte, continue de s'étendre.
Oui, il faut une collaboration internationale extrêmement stricte, extrêmement permanente.
Mais elle existe déjà, cette collaboration.
Oui, mais il faut la renforcer, y compris avec un partenaire comme l'Égypte, où nous avons, devons déployer, avec l'Égypte en particulier, un renforcement de la coopération de nos renseignements. C'est tout à fait essentiel. De nos forces spéciales, c'est tout à fait indispensable. Et faire en sorte aussi que, au niveau de la communauté internationale, la prise de conscience politique ait lieu de la nécessité de régler la question libyenne. C'est une des préoccupations majeures de l'Égypte. C'est aussi une des préoccupations majeures de la France.
L'État islamique qui menace depuis hier d'exécuter un otage croate enlevé le 22 juillet dernier en Égypte, au Caire. C'est un homme de 30 ans qui travaille pour une compagnie française. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que la France travaille à sa libération?
Je n'ai jamais parler des otages dans quelque émission de radio que ce soit ou dans quelques médias que ce soit, et c'est le meilleur moyen d'assurer leur reconnaissance et éventuellement de les sauver. Et donc ce matin, je n'en dirai pas plus, jamais.
Une dernière question, monsieur le ministre de la Défense, concernant le vol MH370. Alors on sait que la pièce qui a été retrouvée à La Réunion est très probablement une pièce de cet avion qui a disparu. Guylain Ouattrelot, qui a perdu sa femme et deux enfants dans ce vol, s'étonne depuis le début du silence des autorités françaises. Il reproche à la France de n'avoir rien fait pour aider aux recherches alors qu'il y avait des victimes françaises, 4 victimes. Qu'est-ce que vous lui répondez à Guylain Ouattrelot ?
D'abord que je comprends sa souffrance, comme je comprends la souffrance de tous ceux qui ont perdu un être cher, lui c'est plusieurs, dans ce dramatique accident.
Mais pourquoi la France ne s'est pas exprimée ?
La France s'est exprimée à plusieurs reprises. Mais nous avons surtout mobilisé des moyens dès l'accident, en relation avec les autorités de Malaisie, à la fois mise à disposition d'experts, mais aussi mise à disposition de moyens de recherche. Et puis là, maintenant, le parquet est saisi de cette découverte à La Réunion et fera en sorte que l'enquête aille jusqu'à son terme pour faire toute la vérité sur ce drame. Il a indiqué hier que la plus forte présomption laissait penser que c'était bien le 777 de la compagnie malaisienne. Et bien, j'espère que tout cela pourra se vérifier. Il faut aller jusqu'au bout de ces recherches pour une plus grande clarification.
Merci beaucoup Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Merci d'avoir été notre invité ce matin.